C'est avec Saint André que nous achevons l'année liturgique et c'est super. Ben c'est super parce que au fond, vous savez, c'est comme un peu à la fin d'un acte. Il y a ce qui va venir après. Et là, nous arrivons au dernier jour de l'année liturgique. Et nous sommes envoyés par un apôtre, Schliré en araméen. Ça veut dire envoyé. C'est comme ça qu'on appelle les apôtres. Et je trouve que c'est un très très beau symbole d'avoir Saint André à cette époque-ci. En général, c'est bon, fin de l'année, au début de l'année liturgique, donc l'Avent qui commence demain. Et des deux côtés, c'est assez extraordinaire, puisque donc on a, grâce à Saint André, fêté le 30 novembre, nous avons l'appel des premiers disciples. Pour le moment, ils sont disciples, ils ne sont pas encore apôtres. Un disciple, c'est quelqu'un qui se met à l'école 2. Saint Benoît en parle dans sa règle, par exemple. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Donc pour l'instant, on a des disciples. Et il y aura 12 apôtres. Au sens analogique, tout le monde est apôtre. Mais au sens ministériel, il y a ceux qui ont cette grâce particulière. Et vous savez que les évêques sont les successeurs des apôtres. Donc un évêque, on a quand même un des 12 en face de nous, quoi. Il faut se rappeler. Parfois, même, c'est bien de poser ce regard-là sur eux. Non pas pour les écraser, mais pour les aider à entrer dans leur mission qui est très lourde. Et alors dans cette lecture, Saint Paul nous parle immédiatement, c'est très fort, hein, de prédication. Si tu affirmes. Donc il s'agit de parler. Il s'agit de foi, de parler, d'affirmer sa foi. Et alors, très vite, Paul dit, mais enfin, comment va-t-on avoir la foi si personne ne parle, si elle n'est pas entendue, si ça n'est pas prêché? Et là, nous découvrons quelque chose d'extrêmement important que nous ne mesurons vraiment pas. C'est la performance de la parole de Dieu. N'allons pas jusque-là d'habitude. Nous nous figurons, je vais dire une chose un petit peu énorme, hein, c'est bien de choquer des fois parce que ça réveille, surtout le matin. Nous nous figurons que Jésus a fait des miracles parce que c'était Jésus. Et c'est tout. Or, Jésus a fait des miracles parce qu'il est la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu est performante. Yoior va yoior. Début de la Genèse. Que soit lumière, fut lumière. Ça ne se discute pas. Il y a une omnipotence, c'est-à-dire une toute-puissance dans cette parole. Elle est immédiatement performante. Il n'y a pas yo-yo, bon, je reviens demain, on verra si c'est en place. Je veux qu'il y ait la lumière. Il y a la lumière. C'est l'omnipotence de Dieu. C'est bouleversant. Ça doit nous bouleverser. Eh bien, la parole de Dieu, c'est ça. Quand le prêtre dit ceci est mon corps livré pour vous, c'est une parole de Jésus, hein, de l'Évangile, dite par Jésus. C'est la seule parole de l'Évangile qui doivent se trouver in extenso dans toute prière eucharistique. Vous savez qu'il y a les quatre prières traditionnelles, 1, 2, 3, 4. Puis il y a d'autres prières qui ont pu être faites pour la pénitence, pour diverses occasions. Il doit systématiquement y avoir ces paroles dans la consécration. Je ferme la parenthèse. Cette parole est performante. Quand le prêtre dit ça, à la seconde où il le dit, à l'instant où il le dit, ce qu'il tenait dans la main, qui était du pain, est devenu le corps et même le cœur de Jésus. Et pourtant, quand vous regardez bien, entre avant et après, vous ne voyez rien du tout comme différence. Bien. Nous sommes dans la foi, mais les gens gravement mal intentionnés qui cherchent à profaner l'Eucharistie, il y a une histoire comme ça d'un monsieur qui fournissait des hosties consacrées à des profanateurs. Puis il s'est converti. Et un jour, il apporte une hostie non consacrée à un profanateur pour essayer de pas de continuer, mais enfin de convertir le bonhomme. Enfin, et le type le regarde, lui dit, elle n'est pas consacrée ton hostie. Alors nous ne le sentons pas forcément. Les puissances du mal, elles savent tout de suite. Bon, fin de deuxième parenthèse, excusez-moi. La foi, la performance de la parole. Quand vous lisez l'évangile à voix haute, il se passe quelque chose. Quand vous lisez les généalogies du livre des Nombres, le livre le plus... le moins drôle à lire. Pas le livre des Nombres, hein, c'est un livre bouleversant, c'est un des plus beaux. Mais les généalogies, c'est... Il y en a des pages et des pages, vous dites, mais et toi Seigneur, là-dedans. C'est la parole de Dieu, elle produit quelque chose en nous. Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Je suis d'accord. Mais dans la foi, ça produit quelque chose. Ça construit en nous quelque chose. Donc voilà, l'importance de la prédication. Alors qu'est-ce que vous prêchez? Vous êtes apôtre de quoi dans votre vie, vous? Du bien-être, du réchauffement climatique, de l'écologie, de Jésus peut-être? Vous êtes apôtre de quoi? De la joie? De la vérité? Vous êtes apôtre du silence? Vous êtes apôtre de la compassion? Voilà. Qu'est-ce que... vous envoyez quel message? Est-ce que c'est le Seigneur qui vous envoie? C'est une vraie question qu'on se pose tout le temps. Hein. On se dit, mais regardez les saints, quoi. Regardez Padre Pio. Et combien de fois on voit dans des bouquins sur lui, il se demande si ce qu'il a dit aux gens était bien. Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait, Seigneur? Oui, c'est pas... voilà, il est saint, lui, il ouvre la bouche, ça marche. Il se pose des questions, il sait pas. C'est pas un fût, hein, ces trucs-là. Ça vient pas comme ça, j'ai une réserve à l'intérieur. Une très grande pauvreté où on apprend à aller. Plus on est pauvre, plus Jésus t'aimera, dit la petite Thérèse. Et bien aimer, c'est passer par. Et en fait, plus nous sommes pauvres, plus l'Esprit Saint peut passer. Vous avez un texte à lire, à commenter, vous n'avez aucune idée. Vous allez sauter en l'air, quoi, parce que Jésus va pouvoir passer, c'est sûr. Vous n'aurez pas votre petite idée à mettre. Bref. Donc, de quoi sommes-nous les apôtres? C'est quand même une vraie question. Alors, comme on est sur les apôtres, évidemment, nous arrivons à l'évangile, et nous avons, c'est rien d'étonnant, mais c'est ça qui est très beau en cette fin d'année liturgique et renouvellement de l'année, nous avons l'appel des premiers disciples dans l'évangile selon saint Jean. Et alors, c'est bien que vous ayez pu lire un peu les lectures et vous dire qu'est-ce qui est bouleversant dans cette affaire. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Jésus regarde. Il ne dit rien. Est-ce que vous avez remarqué ça? Jésus ne dit rien. Il marche le long de la mer. Je ne sais pas si vous avez déjà marché le long de la mer. C'est assez extraordinaire. Hein, bon, bref, no comment. Jésus marche le long de la mer et il voit deux frères. Il les a regardés. Peut-être il marchait depuis 500 mètres. Hein. Je ne sais pas s'il avait 10 dixièmes ou 15 dixièmes aux yeux d'ailleurs. Bon, bref. Bon, ça c'est une blague bêtasse. Mais Jésus a regardé. Dieu voit mieux dans le secret. Vous vous souvenez, hein, c'est la lecture du mercredi des cendres. Ton père voit dans le secret. Il se trouve que Dieu voit mieux dans le secret que quand c'est à la lumière. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et là, Jésus les regarde de loin, quoi. On peut imaginer, il sait exactement ce qu'il est en train de faire, mais il les regarde. Ils jetaient leur filet dans la mer, c'est pas un truc qu'on fait en 4 secondes. Ils jetaient leur filet dans la mer, ça veut dire qu'ils étaient déjà au large. Il les voit jeter, ça prend du temps de jeter un filet, c'est pas une canne à pêche, hein. C'est pas une épuisette, quoi, c'est un filet. Il ne s'agit pas de prendre 2 poissons et demi. Donc ils jettent quelque chose, ils sont dans une action. Jésus les regarde. Est-ce que tu te laisses regarder par Jésus? Est-ce que nous nous laissons regarder par Jésus? Est-ce que nous écoutons Jésus nous regarder? Allez, fais pas de bruit. Et puis arrive la parole bouleversante, quoi. Venez. Et alors là, nous avons la performance de la parole. Aussitôt. Il n'y a pas, écoute, on ramasse les filets. Hein. Aussitôt, laissant leurs filets. Cette performance bouleversante, quoi. Qu'est-ce qui les a fait bouger? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est le regard de Jésus? J'ai déjà cité une fois ou l'autre la conversion du père de Ratisbonne, qui a une vision de la Vierge Marie. Une conversion assez, qui ne s'est pas faite en un instant, mais et je crois que c'est lui hein, qui dit dans son regard, j'ai tout compris. Voilà. Alors, c'est pas Jésus, mais un regard peut nous transformer dans tous les sens du reste. Et donc, ils deviennent choisis. Et en fait, nous avons tous été regardés dans le silence de notre conception. Au sein de notre maman, nous sommes regardés par Dieu. Et nous sommes choisis. Parce que nous existons. En fait, vous voyez, dans un acte de conception, il n'y a que Dieu qui est au courant au début, hein, entre parenthèses. Bon, d'accord, hein, on ne va pas faire un dessin, mais néanmoins, personne ne sait s'il y a une conception ou pas. Il n'y a que Dieu qui est au courant qu'il y a une conception. Bah, la nature, mais l'homme et la femme ne savent pas s'il y a eu une conception. C'est au bout de quelques jours qu'on va se dire, ah tiens, il a dû se passer un truc. Parce que là, il y a une union conjugale, mais on ne sait pas. Voilà, bon, bref. Oui, il n'y a que Dieu qui est présent. Et Dieu ne nous crée pas. Ce n'est pas parce que nous sommes créés que Dieu nous aime. Oh, ben maintenant qu'il est là, il va bien falloir que je l'aime, quoi. Ben c'est l'inverse en Dieu. C'est parce que Dieu m'aime qu'il me crée. Ce qui veut dire qu'il a donc une idée de moi, et pas une idée au sens humain, hein, avant de me poser dans l'être. Sinon, il ne pourrait pas me poser dans l'être. En fait, Dieu, avant une création, il doit se dire, j'imagine, bon, c'est de l'anthropomorphisme que je fais, hein, c'est pas comme ça que ça marche. En Dieu, certainement pas. C'est génial, cette idée-là. Il faut que je la crée. Il faut que je crée cette personne. Alors vous imaginez ce qu'il a pensé avec la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, c'est l'accomplissement de toute la création. C'est l'être qui va recevoir entièrement Dieu, sans aucun obstacle. C'est ce que nous serons un jour. C'est quand même bouleversant, quoi. Bon. Regardez, se laisser regarder. Ça fait tellement de bien. Voilà, donc et ils deviennent choisis. Je disais ça tout à l'heure. The Chosen, vous savez qu'il y a la saison 5 de The Chosen qui est en train de sortir aux États-Unis. Avec les limites qu'on veut, hein, c'est une interprétation. Me disait quelqu'un quand on a lu les romans Don Camillo, les films à côté, ils paraissent un peu pauvres. Ben oui, ben c'est vrai pour tout, hein. C'est une interprétation, donc ça fige quelque chose. Mais ça permet aussi de démystifier des choses ou voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre ça et ça? Ben on ne sait pas. Mais ça peut être intéressant de se dire, mais comment Jésus a-t-il parlé à quel est le ton de la voix quand Jésus a dit, venez à ma suite? Il a dit, eh oh là-bas, vous venez? Ou il a dit, venez? Ou il a dit autre chose? Quel ton il avait? Comment il l'a fait? Vous allez me dire, on ne trouvera pas la réponse. Mais cherchez-la. Peut-être un jour Dieu vous la dira à vous et vous direz, tiens, c'est comme ça qu'il a dû faire. Vous voyez, c'est le Gaon de Vilna, une figure lituanienne rabbinique du XVIIe siècle, qui dit que quand il dit ça, je fais une citation, quand tu étudies la parole de Dieu, commence par te poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit. Et ensuite, tu iras chercher l'interprétation de ceux qui ont écrit sur le passage de l'écriture que tu étudies. Pourquoi? Parce que si tu poses tes questions, tu crées un désir dans ton cœur. Et quand tu entends la réponse vient sur un désir. Sinon, la réponse, elle va venir sur rien. Oh, une intelligence, oui, j'ai appris des choses. Mais pas sur quelque chose qui te nourrira. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, je referme là la parenthèse, mais donc le désir, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils sont d'abord regardés. Hein. En Jean, Jésus regarde beaucoup. Et vous remarquez qu'il remet ça, puisqu'il regarde, il vit deux autres frères, qui eux aussi étaient dans la barque avec leur père. Et eux, ils réparent les filets. C'est drôle cette histoire de filets, vous ne trouvez pas? Il y a ceux qui ont des filets réparés et qui les jettent. C'est Pierre et André. Il y a ceux qui ont des filets pas réparés et qui les réparent. Voilà, je n'avais pas vu ça moi, oui, je viens de le voir. C'est amusant quand même. Pourquoi on nous dit ça? Franchement, est-ce que c'est très grave? Mais voilà, il y a ceux qui sont prêts et qui sont à la pêche, et puis ceux qui réparent. Ça nous montre peut-être que ben, il faut de tout. Il faut ceux qui y vont, puis ceux qui réparent, et puis qui iront après, etc. etc. Bon, je ne sais pas. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Demandez au Saint-Esprit, il vous donnera la réponse sûrement. En tout cas, aussitôt, hein, à chaque fois, il y a les deux s'en vont. Les deux binômes suivent Jésus. Un regard qui emporte tout, en fait. Si on devait donner un titre à cet évangile, on pourrait dire « Un regard qui emporte tout ». Voilà. Réjouissons-nous de ces merveilles. C'est absolument dingue. C'est merveilleux, cette parole. Qu'est-ce que vous voulez? On pourrait y passer encore. Alors, il faudrait aller voir en latin, en grec, ce qui est écrit. Il y a sûrement des sens extraordinaires. Je me souviens plus, il y avait un mot, non, c'était pas filet, qui avait un sens particulier aussi. Vous voyez, quand on va éplucher les mots comme ça, chercher le mot, aller regarder l'étymologie du mot, qu'est-ce que ça veut dire? Quel était l'usage? Qu'est-ce qui a fait qu'on a utilisé ce mot pour le dire? Vous découvrirez des choses merveilleuses. Qu'est-ce que ça veut dire que Zébédé? Qu'est-ce que c'est que Jacques? Qu'est-ce que c'est que Jean? Yohanan. Dieu aime. Voilà. Etc. 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 Et vous voyez, au début, on a Simon appelé Pierre, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il n'est pas appelé Pierre. Il n'est pas encore appelé Pierre. Pour l'instant, il s'appelle Simon. Mais Jésus a déjà vu. Voilà. Donc restons sous le regard de Jésus. On ne craint rien. C'est même pas possible, même pas mal. Le regard de Jésus, c'est une sorte de protection, c'est comme une lumière, vous voyez. C'est une lumière, du reste. Et le péché, c'est de sortir du regard de Jésus. Je suis caché, il ne peut pas me voir. Ouais, c'est ça, c'est pour voir. Voilà. Alors Jésus peut-être peut ne pas regarder. Encore une fois, c'est un anthropomorphisme. Dieu voit tout, mais enfin, on parle de façon humaine de Dieu, forcément. Et voilà, donc restons sous ce regard de Jésus et laissons-nous regarder. Et entrons dans cette nouvelle année, ce soir, aux premières vêpres.